Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Vincent Bourg.
Salut Julien.
Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuses, dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. En 2022, pour une nouvelle année, le podcast 2030 Glorieuses, il est soutenu par la NEF. La NEF, c'est une coopérative bancaire citoyenne qui soutient depuis plus de 30 ans les porteurs de projets sociaux, écologiques et culturels. Ils participent donc à faire advenir les 2030 Glorieuses dès aujourd'hui. Toi, Vincent, tu es le cofondateur de Baluchon. Baluchon, c'est une entreprise qui fabrique des tiny houses. Tu vas nous raconter ce que vous faites et en quoi cette activité a un impact écologique, mais aussi sur notre relation au vivant dans son ensemble, et peut-être même nous donner à voir pourquoi ces tiny houses, elles sont aussi des vertus sociales. On échange aujourd'hui à distance. Et pour commencer cet échange, Vincent, je te pose la question que je pose désormais à tous mes invités en début d'émission. Qu'est-ce que tu réponds aux gens que tu rencontres pour la première fois et qui te demande, et toi, tu fais quoi dans la vie?
Moi, ce que je fais dans la vie, j'ai fait quelques études comme pas mal de personnes, des études pas forcément très très longues, hein, j'ai juste fait une licence, mais le système scolaire est fait d'une manière que certaines personnes ne s'y sentent pas totalement épanouies. Et du coup, moi, ce qui m'anime vraiment, c'est la découverte, le voyage. Et du coup, dès que j'ai terminé mes études, j'ai commencé à voyager. Et c'est vraiment là que les pétales de la fleur ont pu s'ouvrir et que j'ai pu découvrir qui j'étais et ce que je voulais vraiment dans ce monde. Et moi, j'aime découvrir des choses et plus le temps avance, plus je découvre que j'aime la simplicité de vie. Et du coup, j'en parlerai un petit peu plus tard probablement. Moi, j'aime essayer de partager cette simplicité de vie. J'aime observer les choses. J'aime donner de l'importance à des objets et à des moments qui peuvent paraître assez banales et assez quotidiens. Et moi, par exemple, l'une des choses qui me fait le plus plaisir le matin, c'est quand je prends ma douche et que je me verse un petit peu d'eau chaude sur le visage, je suis comblé d'un luxe incroyable. Et quand je me verse de l'eau chaude sur le visage, je me sens presque le roi du monde. Et parce que je trouve ça vraiment extraordinaire. Et du coup, je suis, oui, en recherche de simplicité et essayer de chercher et de regarder, d'être observateur de la beauté du quotidien.
Vincent, tu es le cofondateur de Baluchon. Baluchon, c'est l'une des premières entreprises de fabrication de tiny house. Vous avez aujourd'hui une très très belle renommée en France. Vous avez participé grandement à l'essor du mouvement tiny dans nos contrées. Et donc forcément, toi, tu réponds à côté de ce qu'on répondrait d'habitude. Et pour ça, je te félicite, parce que c'est vrai que malheureusement, trop souvent, on se définit à travers notre travail. Et donc, tout de suite, on se définit d'ailleurs à travers notre travail ou notre absence de travail. Donc toi, là, tu nous parles de ta recherche de simplicité. Et j'ai l'impression que cette recherche de simplicité, d'aller à l'essentiel, elle a réussi à faire aujourd'hui que tu es le métier que tu as. Et d'ailleurs, je serais très content de t'entendre à ce sujet. Tu essaies de mettre un mot sur ce métier. Je ne sais pas si tu as déjà réussi à le faire. Mais toujours est-il que sur le site web de Tinyas, j'ai trouvé cette phrase et j'ai l'impression qu'elle va parfaitement dans la continuité de ce que tu étais en train de me dire. C'est Saint-Exupéry qui dit « La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. » On est à fond là-dedans, hein.
Ouais, c'est ça. Tu es presque en train de spoiler mon petit extrait de livre qui parle de ça. Et oui, bah en fait, pour revenir au tout début, moi, mon projet de Tiny, c'était à chaque retour de voyage, je retournais chez mes parents, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, j'aimerais retourner dans mon chez moi, et c'est pour ça que j'ai fait ma tiny. Et puis au fil des recherches sur internet, j'ai pris contact avec des personnes qui fabriquaient déjà des tiny à l'époque. Et qui m'ont donné contact de Laetitia, et c'est comme ça que l'entreprise s'est créée plus tard, parce qu'on avait tous les deux cette envie de continuer dans ce domaine. Mais c'est vrai qu'à la base, je voulais juste faire ma tiny et vivre de la vente de quelques objets en bois et vivre de l'apiculture. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et au final, le hasard de la vie m'a emmené à être justement cofondateur et co-gérant de Baluchon avec Laetitia.
Et comment tu décrirais et même comment tu nommerais ton métier ? Parce que là, du coup, depuis tout à l'heure, on tourne autour de la notion de cofondateur. Très bien, tu es à l'initiation avec Laetitia de ce mouvement, de cette entreprise, mais ça ne représente pas ton métier, en fait. Concrètement, quel est ton métier ? Est-ce que si on dit constructeur de tiny house, c'est trop générique, c'est trop général ou c'est trop...
Non, c'est plutôt vrai. Après, on construit des tiny house, et en fait, au tout début du projet, ce qui nous animait aussi à Laetitia et moi, c'était d'aider les personnes qui souhaitent auto-construire, et parce que tous les deux, on vient de là, et on avait cette volonté d'aider les autoconstructeurs et autoconstructrices, mais rapidement, on était devant l'évidence que si on construit pas à côté, on pouvait avoir un certain manque de légitimité et à terme un manque de connaissances profondes du sujet, et c'est pour ça que on a ces deux axes, donc la construction pour peaufiner les tiny, et en parallèle, grâce à cette expérience, l'aide pour les autoconstructeurs et autoconstructrices de tiny. Et d'ailleurs, entre parenthèses, cette part de tiny autoconstruite en France est assez conséquente, et je pense est presque inédite pour un habitat, et je trouve ça assez beau que de plus en plus, dans un monde où on peut acheter énormément de choses, les gens commencent à fabriquer leur maison.
Ouais, en préparant l'interview, tu me disais en rigolant que, en fait, moi j'avais fait autant d'épisodes des 2030 Glorieuses, c'est-à-dire une cinquantaine, que vous avez construit des tiny houses. Est-ce que dans les 50 que tu me donnais, là, ce chiffre, tu incluais aussi justement les tiny que vous avez aidé à auto-construire ou pas ?
Non, parce que c'est pas des projets qu'on va quantifier, et certaines personnes vont... beaucoup nous solliciter pour leurs projets, d'autres beaucoup moins, et du coup non, c'est pas ça inclut pas du tout cette part d'autoconstruction, mais voilà, on est un petit peu sur les réseaux, on écoute un petit peu ce qui se fait à droite à gauche, et on le voit, il y a un nombre grandissant de projets comme ça, et également d'autres projets en tout genre liés à la tiny, comme des lieux où les personnes motivées peuvent aller construire leur tiny. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment chouette qu'il y ait des espaces qui soient dédiés pour l'autoconstruction des tiny houses.
Ouais, c'est vraiment un milieu en pleine effervescence, le milieu des tiny house, avec tout ce qu'il y a de créativité, d'entraide aussi, qui donne à voir de belles valeurs qui, à mon sens, correspondent aux 2030 glorieuses. Pour revenir quand même un petit peu, toi, maintenant, en tant qu'expert de cette construction, de ce mouvement, est-ce que tu peux nous décrire très rapidement les impacts aussi qu'a la tiny house? Parce que si on voit bien ce petit objet sur roue, aujourd'hui peupler les imaginaires, parce qu'il y a une idée un peu de rêve hein, quand même autour de ça, dans sa grotte un peu personnalisée. Pourquoi, en plus de ça, en plus d'être beau, en plus d'être ludique, créatif, sympa presque, j'avais envie d'utiliser ce mot-là, ça a un vrai impact aussi écologique, la tiny house, ça a une vraie vertu pour les 2030 glorieuses?
Déjà, je pense qu'il y a quelque chose d'assez évident, c'est la taille. C'est un petit habitat. Et c'est vrai que, comme je dis de temps en temps, quand je regardais la télé il y a 10 ans, 15 ans, je voyais des émissions avec des maisons écologiques de 400 mètres carrés. Et c'est vrai que si on souhaite que tout le monde puisse avoir la possibilité d'avoir une maison ou de se la fabriquer, faut déjà laisser de la matière première pour ces personnes-là. Et c'est Gandhi qui disait vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre. Et c'est vraiment cette philosophie-là, moi, qui m'anime. Et déjà le fait de construire petit, je trouve que on se sent moins coupable d'avoir entre guillemets volé un morceau de bois au voisin qui aurait pu l'utiliser pour faire un bout de sa charpente.
Ouais, bien
donc,
sûr.
Donc déjà, je pense.
Donc moins de ressources à la construction.
Totalement, ouais. De manière plus globale, sur la tiny, en effet, c'est déjà peu de ressources. Donc peu de matières premières. Nous, on essaye d'utiliser des matières qui ont des énergies grises assez faibles. Alors, on n'est pas parfait. Et ça, on pourra revenir. Pour moi, la tiny, c'est un compromis de pas mal de choses. Mais déjà, on a beaucoup de matériaux qui sont recyclables. Et ça, pour nous, c'est vraiment important qu'on puisse penser d'une au cycle de vie, mais aussi à la déconstruction des habitats. Aujourd'hui, on pense beaucoup à la conception et de plus en plus à la vie dans l'habitat, mais très peu à la déconstruction. Et malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve avec des matériaux sur le dos, comme du béton, comme du plâtre, de la laine de verre, et on ne sait pas trop quoi en faire. Et au passage, on est plutôt fiers de ne pas utiliser de béton, parce que j'ai étudié, un petit peu le béton durant mes études, et c'est là aussi que j'ai vu que ça me correspondait pas trop, surtout quand j'ai découvert la formule chimique du béton qui fait tout simplement disparaître de l'eau de la planète Terre à cause de cette formule chimique à sens unique. Et du coup, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait du béton, on fait disparaître des molécules H2O de la planète Terre. Et du coup, on est bien content de ne pas utiliser de béton déjà.
Et puis après, en plus des ressources, ça a commencé à toucher ça un peu du doigt. Il y a effectivement l'utilisation de la tiny house, qui est elle aussi beaucoup plus légère par rapport à une maison classique, notamment due au volume, mais pas que, parce qu'il y a plein d'astuces aussi au sein des tiny house qui font qu'on utilise moins d'eau, on utilise moins d'énergie. Hein.
Tout à fait. Tout est optimisé et du coup c'est moins de chauffage, et vu que c'est moins grand, on a besoin d'acheter moins de choses pour remplir le volume, donc ça nous limite. Et ça, c'est vraiment intéressant, cette notion d'auto-limitation. On se dit c'est ce volume est censé me suffire, donc je dois m'adapter à ce volume, et si je dépasse, c'est que j'ai peut-être un petit peu exagéré sur différents achats ou ce genre de choses. Et du coup, ça permet de se restreindre. Et ça, je trouve ça intéressant, surtout pour les personnes qui peut-être ont du mal justement à se restreindre d'elles-mêmes. Et au-delà de ça, en effet, les consommations d'énergie sont faibles. Et ça, c'est vraiment intéressant.
Continue, si tu veux bien, continuer sur l'utilisation de l'énergie, sur l'idée du chauffage, parce que il y a aussi dans la construction de la tiny, hein, après toutes les tiny n'ont pas ces solutions techniques, mais en ayant par exemple pris beaucoup de plaisir à regarder la série sur la Tiny du Low-Tech Lab. On voyait qu'il y avait plein de manières hein, de faire en sorte que finalement l'habitation soit presque la plus autonome possible en fait.
Exactement. Et en fait, ça rejoint un petit peu la, la démarche Negawatt qui est en premier lieu d'économiser. C'est la sobriété. Le deuxième aspect, c'est optimiser les systèmes de production. Et le troisième aspect, c'est passer sur de l'énergie renouvelable. Et c'est vrai que aujourd'hui, on parle forcément beaucoup d'énergie renouvelable et avec des consommations qui sont croissantes. Ce qui est intéressant avec la Tiny, c'est que justement ce volume est tellement petit qu'on peut facilement optimiser ces systèmes de production. Et comme tu l'as très bien dit, la démarche du Low-Tech Lab, pas mal de moyens techniques sont possibles parce que la Tiny a des besoins faibles en énergie. Et là, on se rend compte que du coup, ça devient possible. Et du coup, ça ouvre beaucoup de portes. Et ça, c'est vraiment chouette.
Et donc, on a, pour en citer que quelques-unes, hein, et tu pourras compléter si tu vois des oublis majeurs, mais on a effectivement des toilettes sèches, on a des frigos qui permettent de stocker les légumes, les denrées précieuses sans utiliser d'énergie. On a, étant donné que la Tiny est directement posée sur le terrain, dans l'espace naturel, on a la possibilité de filtrer l'eau usée. On a forcément aussi la possibilité de chauffer la Tiny, de chauffer l'eau de la Tiny différemment, notamment grâce au soleil. Il y a plein de manières hein, de profiter des ressources environnantes pour vivre de la manière la plus sobre possible.
C'est ça. Aujourd'hui, on a une source d'énergie qui est assez conséquente, qui s'appelle le soleil, qui vient à peu près tous les jours, pas dans toutes les régions de France, mais qui vient très régulièrement. Et c'est vraiment une source qui est inexploitée de par le mauvais design des maisons, en fait. Ça fait un demi-siècle, même plus d'un demi-siècle, qu'on sait faire des maisons qui ont des besoins d'énergie qui sont quasi nuls, voire inexistants. Mais on continue à mettre les façades principales face à la route, alors que le sud est derrière. Et du coup, oui, ça engendre des consommations d'énergie qui sont forcément plus conséquentes.
Et puis, ça date d'il y a pas mal d'épisodes, hein, mais j'avais donné la parole à Aurélie Moy, qui avait fondé un village de tiny house qui s'appelle le T-Village, avec une prétention aussi sociale, parce que c'est l'occasion d'y loger pour un moindre coût des étudiants notamment. Il y a ce caractère social qu'elle nous présentait, tu vois, toi aussi, d'autres raisons de dire que ces tiny, elles peuvent être aussi des véhicules de liens sociaux, d'avancées sociales.
Tout à fait. Déjà, le fait de voir une tiny ou de posséder une tiny, ça stimule la discussion. Donc déjà, il y a beaucoup de communication qui se fait autour de l'habitat. Et du coup, ça peut donner des fois des idées. Et au-delà de ça, nous, on le voit dans les profils de nos clients et clientes. Souvent, la tiny, c'est là où je trouve que c'est un bon compromis. C'est-à-dire qu'on on va pas uniquement agir sur l'aspect habitat. On pourrait faire encore mieux. Nous, on a des couvertures en aluminium, par exemple, et ça a le très grand avantage d'être assez léger, mais avec un impact carbone assez élevé. On pourrait très bien mettre des bardeaux de bois, mais là, sur des maisons fixes. Et du coup, on le voit, nous, l'aspect mobile est vraiment intéressant. Et on a des profils pas mal de familles monoparentales avec un enfant, et la Tiny permet de rebondir plus facilement par rapport aux aléas de la vie, je dirais.
Ouais, ce que tu veux aussi dire, c'est que c'est un accès à la propriété qui est facilité, c'est des charges en moins, c'est finalement un accès à ses besoins vitaux qui est tout d'un coup proposer à une frange de la population bien plus large, en fait.
Exactement. Nous, pour ainsi dire, on n'a pas. Ça nous arrive d'avoir la question de savoir si on avait une clientèle type, et la réponse est non, tout simplement. Et du coup, c'est ça qui est vraiment intéressant, je trouve, dans ce type de construction, c'est que il y a beaucoup de motivations diverses et variées pour vivre en tiny. Certains vont le faire pour un aspect plus écologique, d'autres pour l'aspect mobilité, d'autres pour l'aspect minimaliste. Et on a même eu des profils de personnes qui vivaient dans des grandes maisons ou des grands appartements et qui littéralement en ont eu assez, en fait, de passer du temps pour prendre soin de ces habitats, les nettoyer, les rénover, devoir travailler pour chauffer ces habitats. Et en fait, ils se sont rendus compte que malheureusement, il commençait à y avoir peu d'avantages à posséder ce genre d'habitat, que c'était presque ces constructions qui les possédaient, entre guillemets. Et le fait d'aller sur la tennis, c'était vraiment une libération et le retour à l'essentiel. Et très souvent aussi, il y avait un changement de métier qui allait avec. Et le fait d'être avec la tiny, bah justement, c'est un petit habitat qui peut aller à droite, à gauche, et ça permet de mieux rebondir, même d'un point de vue professionnel.
Ouais, merci Vincent pour cette première partie vraiment passionnante. Ça donne envie, hein, si vous ne connaissez pas le mouvement Tiny, allez faire un tour du côté des réseaux sociaux, notamment on y voit énormément de comptes qui partagent ces petites maisons sur roues qui sont vraiment toutes plus belles et créatives les unes que les autres. Moi j'avoue que là, dans l'année qui vient, je me ferais bien une expérience d'un jour ou deux en Tiny. Ça doit être vraiment, vraiment, vraiment très, très, très sympa. Et souvent en plus, c'est des maisons qui sont directement au milieu de la nature, donc dans l'idée de la reconnexion, il y a un pas en plus qui se fait. Vincent, nous, on va bientôt voyager en 2030 glorieuse, mais comme à chaque fois, l'invité vient avec un cadeau que je t'ai fait malheureusement apparemment déjà un peu divulgâché. Quelle fenêtre tu nous offres là à travers la littérature ?
Alors moi, c'est un bouquin qui s'appelle, donc le titre en anglais, enfin le livre aussi, mais c'est A Handmade Life. Donc c'est une vie faite à la main. Et donc c'est un livre de William Copperweight. C'est un États-Unien qui est décédé malheureusement, mais qui vivait vraiment en simplicité, qui était vraiment investi dans le design démocratique, c'est-à-dire des objets qui pouvaient facilement être créés par n'importe qui. Et ça concernait également sa yourte. Donc, il a fait une très belle yourte. Et voilà, c'était vraiment un grand défenseur de la simplicité. La plupart d'entre nous aiment avoir de belles choses. La façon dont nous définissons le terme « beau » va grandement déterminer si nous menons une vie d'exploitation tacite ou une vie juste. Par exemple, avoir une belle maison peut être une question de statut, de dépenses et d'extravagance, ou cela peut signifier avoir la meilleure maison pour vous et vos besoins. Une maison que vous avez conçue et construite, une maison qui est belle parce qu'elle est parfaitement adaptée. Avoir de belles choses ne signifie pas nécessairement avoir des choses onéreuses. La qualité d'un objet vient du savoir et de la beauté qu'elle porte plus que son coût. Avoir l'une des meilleures poêles à crêpes du monde est possible pour quiconque découvre ce qui constitue une bonne poêle à crêpes. L'argent n'a pas besoin d'entrer dans l'équation. Si vous mettez ensemble de nombreux petits éléments les uns après les autres, vous pouvez créer l'une des plus belles maisons possibles. Ce sont ces petits détails multipliés de nombreuses fois qui constituent notre monde quotidien. L'impact de ces différentes subtilités sur la qualité de notre vie et de notre travail est incalculable. Plus le bon design nous entoure, plus il devient facile de bien concevoir. Rappelez-vous que les principaux éléments d'un bon design sont la sensibilité et le soin, la dépense étant un facteur relativement mineur. Le concept de design social implique le changement, la reconstruction ou le remodelage de quelque chose, un processus de transformation. Imaginez ce qui se passerait si 300 millions de personnes se préoccupaient de construire un monde meilleur. Il s'agirait d'une révolution sociale telle que jamais auparavant. La différence essentielle entre un tel réveil massif et notre situation actuelle serait la prise de conscience par un très grand nombre de personnes que ce monde est le leur. Que le monde peut être changé, qu'ils peuvent, devraient et doivent jouer un rôle dans la refonte de ce dernier. Pour que cela se produise, il faudrait que le design devienne comme lire et écrire, manger et dormir, normal et familier pour tout le monde. Bien sûr, le résultat d'un monde meilleur sera autant une conséquence du processus de recherche qu'un résultat d'idées, de conception spécifique. Et à moins que le design ne devienne le domaine imaginatif partagé de tous, nous continuerons à être exploités par les designers dédiés aux intérêts commerciaux. Un public averti ne peut se laisser vendre des produits de mauvaise qualité s'il s'agit de vaisselle difficile à laver à cause des ornements floraux, de programmes scolaires qui ne favorisent pas l'éducation, de centrales nucléaires incompatibles avec l'environnement ou de guerres destinées à nous sauver de nos ennemis. Nous sommes constamment manipulés par le design. La production industrielle a été une bénédiction en nous fournissant de nombreuses choses nécessaires à moindre coût. Mais à moins d'être vigilants et vigilantes, nous laissons la machine commencer à nous enseigner le design. Par exemple, les machines peuvent être utilisées pour créer n'importe quelle forme de chaise, mais les intérêts commerciaux peuvent faire plus de chaises et plus d'argent si le design le plus simple pour les machines est choisi pour la production. Nous nous retrouvons donc entourés de meubles conçus pour répondre aux besoins de machines. Un exemple est la chaise commerciale adossée à lattes avec des pieds et des barreaux tournés et une assise tissée. Cette chaise est fabriquée par des machines depuis si longtemps qu'elle est devenue la norme pour son type. Mais la personne qui souhaite fabriquer une telle chaise à la main s'interroge rarement sur la nécessité d'un tour à bois. Il est possible de construire une chaise de très bonne qualité sans tour à bois. Les arrondis n'ont pas besoin d'être ronds ou tournés. Toutes les pièces nécessaires peuvent être façonnées avec un couteau à sculpter, une hache ou une plane. Pourtant, l'industrie a tellement bien maîtrisé le design des chaises que nous avons désormais du mal à imaginer comment la forme pourrait être différente si une chaise était fabriquée à la main.
Merci Vincent pour ta lecture, ton regard sur comment le design peut aussi a déjà transformé le monde et peut retransformer le monde, mais cette fois dans un sens qui nous serait plus salutaire. On y est en 2030 glorieuse d'ailleurs, dans ce monde où le design a œuvré à la création d'une société où les relations entre les êtres humains, mais aussi avec les autres espèces, a repris toute sa splendeur. Ces 2030 glorieuses, Vincent, elles existent là que dans nos esprits à nous deux. Donc il va falloir être assez bon dans notre capacité à les décrire pour que les personnes qui nous écoutent, elles puissent elles aussi sentir qu'elles sont là avec nous dans ces 2030 glorieuses qui, moi j'en suis persuadé, ont un pouvoir de libération à la fois des imaginaires mais aussi des énergies assez extraordinaires. On est en 2030 glorieuse, on parle au présent depuis les 2030 glorieuses, Vincent. Et la première question que je te pose, c'est toi, qu'est-ce que tu vois quand tu regardes à travers ta fenêtre?
Moi, je vois ce que je vois déjà, je pense, c'est-à-dire de la verdure, des oiseaux. J'aime être contemplatif, je passe beaucoup de temps à regarder les oiseaux, à les regarder voler, à observer leur comportement, et je trouve que c'est vraiment une richesse d'être entouré par ces petits individus volants qui font vraiment partie d'un tout. Et quand j'ai compris que la mésange bleue nous aidait à avoir de jolies chaînes, ça donne vraiment du sens, et c'est là qu'on a envie d'aider ces petits oiseaux l'hiver notamment. Je pense que c'est entouré de verdure et de jolis objets en bois et peut-être de quelques moutons que j'imaginerais 2030.
Alors attention Vincent, je te reprends une fois, c'est normal, oui. Pas évident hein, de s'imaginer en 2030 glorieuse. On y est en 2030 glorieuse.
Je m'y perds.
Le conditionnel n'existe plus, nous y sommes.
On y est, hein, c'est maintenant.
Ça y est, c'est bon, on y est encore pendant une quinzaine, vingtaine de minutes ensemble, ça va bien. Je te promets. Tu parlais tout à l'heure dans notre interview de la contrainte et qui permet aussi de générer de la créativité. Hein, le mouvement Tiny House, il a préfiguré ça. On avait vachement peur des décennies à venir parce que bah, forcément, au niveau climatique, mais pas que, il y a plein d'urgences auxquelles on fait face, on doit faire face, on continue à faire face et on avait peur que ça allait nous oppresser, que ça allait nous limiter, que ça allait nous rendre moins heureux. Alors qu'en fait, le mouvement Tiny House préfigurait déjà, hein, peut-être que tu t'en souviens, en 2022, mais même avant, à quel point la contrainte, elle est aussi source de créativité. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se traduit dans notre société, ça?
On va dire que déjà cette contrainte, nous on l'a retrouvée de manière plus basique sur les aménagements des tiny. Et on voit bien que en fait vivre plus petit, ça veut pas forcément dire mettre de côté le confort moderne, ce qui des fois peut faire peur à certaines personnes. Et oui, je pense que nous sommes dans une ère où le design va avoir une place prépondérante. Et on va devoir optimiser nos espaces. Et je pense que notamment avec la permaculture, on va pouvoir optimiser des espaces et pouvoir vivre de manière luxueuse sur de toutes petites parcelles. Et moi, je trouve ça assez intéressant.
Ça veut dire aussi moins de place en intérieur, donc d'une certaine manière être naturellement poussé à passer plus de temps dehors, ça veut dire moins de ressources, moins de biens, et donc ça veut dire être naturellement poussé à partager ou à concentrer son temps sur des choses qui sont encore plus essentielles et en fait encore plus joyeuses. Hein.
C'est ça. Exactement, ça c'est moi, c'est vraiment ce qui me fait vibrer en fait, c'est que justement quand on a un petit peu plus de temps, quand on a peut-être moins de possessions matérielles, ben on apprend plus la débrouillardise. En fait, on se rend compte qu'on est entouré de choses magnifiques et tant qu'on n'a pas pris conscience de ça, on a toujours envie d'avoir plus en fait. Et du coup, le fait d'avoir peu d'objets ou des objets qui ont de la valeur, non pas pécuniaire mais sentimentale, je trouve que c'est vraiment ça qui va être le secret pour l'avenir et de se rendre compte qu'on peut être tout à fait heureux avec des beaux objets qui ont du sens. Et tout simplement le matin boire son café dans une belle tasse qu'on a faite à la main, même si elle n'est pas parfaite, elle a cette perfection d'avoir été faite par nous-mêmes. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est important. Et si on donne de l'importance à tous ces petits gestes du quotidien, à tous ces petits objets du quotidien, je pense que rapidement, on pourra se lasser des objets industriels et fabriqués à très grande quantité.
Ouais, c'est ce qui est effectivement advenu. D'ailleurs, il y a, au niveau plus macro, hein, la Tiny House, elle a aussi eu un pouvoir assez extraordinaire de transformer nos villes. Il y a 10 ans en arrière, on commençait à le sentir. On était au balbutiement de la Tiny House qui permettait de créer de nouveaux villages, mais souvent même à l'intérieur de villes, il y avait Rezé qui avait ce projet, Villeurbanne aussi. Aujourd'hui, il y a des villages de Tiny House partout, aussi bien à l'extérieur des villes que dans les villes. Tu peux me raconter à quoi ça ressemble, ça?
C'est vrai qu'avec tous ces petits villages de tiny à droite à gauche et autres habitats légers, ça permet un petit peu de redéfinir déjà l'habitat dans les villes et redéfinir la ville dans sa globalité.
Moi, tu vois, pour te partager ce retour par rapport à ça, une utilisation des tiny house qui, je pense, n'était pas évidente pour tout le monde il y a 10 ans en arrière, ça a été de resserrer le lien dans les familles. pendant pas mal de temps, bah voilà, dès qu'on pouvait, les jeunes partaient. Et en fait, c'est de plus en plus difficile parce que ça coûte cher de payer un logement en ville. Et aujourd'hui, on a la possibilité de donner de l'autonomie à des jeunes grâce à une tiny house qui viendrait dans le jardin. Et dans la continuité de ce mouvement-là, en fait, il y a des tiny houses aussi qui ont été installées dans les jardins de maisons pour accueillir des parents qui avaient, voilà, de plus en plus besoin d'avoir cette proximité avec la famille parce que de plus en plus dépendants avec des problèmes de santé, etc., etc. Donc cette tiny house, elle a eu plein de vertus.
Mais ça, tu vois, c'est rarement dans les villes. C'est plus en périphérie ou en campagne. Et ça, nous, c'est des solutions qu'on évoque assez régulièrement. Le fait que les tiny houses se rapproche des villes ou tout du moins sur la périphérie, ça permet en effet de par exemple si on a une grand-mère, une maman qui est malade, plutôt que d'aller tous les matins faire 20 minutes ou 30 minutes de voiture pour aller prendre soin d'elle, elle peut avoir son autonomie dans la tiny mais dans le jardin. Et du coup, ça permet de juste passer 5 minutes pour prendre soin de sa maman ou de sa grand-mère, puis par exemple aller travailler. Et ça, nous, c'est des choses envisagées depuis un petit moment. Et c'est vrai que ça nous fait plaisir de voir que la tiny, c'est bien plus qu'un habitat. Et comme je le disais au tout début de l'interview, pour moi, c'est un vrai compromis, cette tiny. Et c'est peut-être pas l'habitat parfait, mais de fait que ce soit le compromis qu'on attend aujourd'hui, ça rend un habitat qui est vraiment adapté. Et également pour les étudiants. Et c'est vrai que ce qui est intéressant sur le petit village, c'est que ça permet soit de louer une petite parcelle ou de venir avec sa tiny puis de partir. Et même d'un point de vue financier, ça permet d'être propriétaire et de bouger son logement étudiant à droite à gauche.
Et donc en 2030 glorieuse, où nos vies elles sont encore plus changeantes qu'avant, bon, avec les réalités du dérèglement climatique aussi qui fait que certains territoires peuvent très vite être chahutés, et c'est peu de le dire, par forcément les incendies, les inondations, etc., etc. La tiny house, ça nous permet aussi d'avoir une mobilité qui est bienvenue, hein, en 2030 glorieuse.
Exactement. Et on nous demande d'être de plus en plus mobile dans notre vie professionnelle, mais aussi des fois dans notre vie privée. Donc ça peut être en effet des fois dû à des conséquences climatiques. Ça peut aussi être dû des fois à des ruptures, par exemple. Et le fait d'avoir un habitat qui est très facilement mobile, ça permet de pouvoir s'adapter facilement et de pouvoir éventuellement aller chercher la fraîcheur, par exemple, en Bretagne au hasard lors de canicule, par exemple, et puis aller passer, je sais pas, les hivers en Scandinavie éventuellement. Et du coup, ça permet de développer beaucoup de projets grâce à la tiny. Pour moi, la tiny, c'est vraiment un épicentre à partir duquel on peut rayonner. C'est un habitat qui demande peu de ressources énergétiques, peu de ressources humaines, peu de ressources financières. Et du coup, ça offre une vraie flexibilité, une vraie liberté que ne peut pas forcément offrir une plus grande maison sur fondation.
Je voulais aussi t'entendre au sujet des vertus sur l'économie, sur l'emploi des tiny houses, parce que des dizaines de milliers de tiny houses qui circulent partout en France, ça veut dire des dizaines de baluchons répartis partout sur le territoire. Hein. Baluchon a fait des petits en 2030 glorieuse.
Oui, il y a quelques petits, et du coup, on est vraiment content de voir que ces petites maisons ont pu pousser à droite, à gauche. Et c'est vrai que nous, ce qui nous plaît vraiment dans ça, c'est de voir qu'il y a eu un changement de paradigme, et de voir que le béton a été mis un petit peu de côté et que les matériaux un petit peu plus locaux et renouvelables ont vraiment été mis en avant.
Ça veut dire aussi des emplois plus épanouissants chez Baluchon. J'imagine que les salariés, ils viennent parce qu'ils ont envie de mettre au service de quelque chose qui leur tient à cœur, leur créativité. Ils sont peut-être aussi avec une recherche de sens. Ça, du coup, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'emplois qui sont créés dans ce sens-là.
Tout à fait. Et nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est, on l'a vu durant toutes ces années, c'est remettre également au goût du jour l'artisanat. Et on le voit aujourd'hui, en 2030, les artisans sont devenus vraiment des personnes importantes. Et le travail fait à la main est vraiment considéré. Et quand je parle du travail fait main, je parle également du travail des photographes, des pianistes, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous fait plaisir, parce que il y a quelques années, en 2020-2025, j'avais un petit peu peur que certains savoir-faire disparaissent, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et du coup, maintenant, on a retrouvé nos savoir-faire ancestraux. Et ça nous donne de l'espoir encore plus.
Ouais, et justement, je me posais la question, Vincent, s'il y a aujourd'hui des centaines d'entreprises qui fabriquent des tiny houses en France, est-ce que ça veut dire aussi qu'on a dû développer des filières de formation dédiées? Est-ce qu'on se forme à construire des tiny houses? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des écoles de fabrication de tiny houses en France?
Il y a quelques écoles de tiny house qui ont poussé. Cependant, ça reste plus ou moins lié à des constructions de maisons sur turbois, hein, tout bonnement. Mais en effet, il y a quelques écoles spécialisées qui font plus des constructions haut de gamme qui se sont développées. Et du coup, on trouve ça vraiment vraiment intéressant, parce qu'ils essayent de pousser ce concept de tiny house au maximum. Et on trouve ça vraiment stimulant justement pour les années à venir, et on a hâte de voir ce que ces personnes qui sortent de ces écoles vont pouvoir créer justement dans les décennies à venir.
Oh là là, tu me dis tout ça, et en fait j'étais en train de m'imaginer si moi à mon époque j'avais eu comme ça des filières de construction de tiny house qui avaient été accessibles. Mais j'aurais foncé tête la première. Le rêve dans les futurs emplois pour les jeunes, c'est tellement essentiel.
Ouais, mais ce qui fait aussi beaucoup rêver, c'est la cabane. Et en fait, on a beau habiter en ville, je suis aujourd'hui de moins en moins de personnes hein, habitent en ville. On est une grande majorité est retournée vivre à la campagne pour cultiver ces petits légumes, mais ce rêve de la cabane et de la simplicité, je pense que c'est pas juste un certain attrait de quelques uluberlus. Je pense qu'on fait vraiment partie de ça, et quand on se sent pas bien, je pense que tout simplement être dans une cabane entourée de bois, être connecté justement à la nature, parce que cette cabane a été faite grâce à des arbres qui ont poussé pendant des dizaines d'années. Tout simplement vivre dans ce type d'habitat donne du sens à la vie et donne du sens au moment présent justement. Être entouré de béton, bah voilà, c'est un matériau qui déjà d'une est froid et qui a peu d'âme. Voilà, on peut très bien passer du temps pour à regarder les cernes du bois qui sont sur tel ou tel mur, et voilà, et pouvoir se connecter au moment présent et se dire tiens, on est en 2030, je vais aller planter quelques arbres pour ceux qui vont faire des maisons en 2100.
Toi d'ailleurs, Vincent, tu fais quoi en 2030 glorieuse?
Bon, 2030 glorieuse, je fais toujours quelques petites maisons, mais j'ai réussi à me libérer un petit peu de temps pour faire de l'apiculture, et du coup ça me fait vraiment plaisir, et du coup je peux avoir un petit peu de miel et vivre ma vie simple dans ma petite cabane qui aura peut-être un petit peu grandi après, selon où me mène la vie.
Ouais, peut-être un concept d'ailleurs, hein, de tiny house avec une ruche sur le toit, il y a peut-être un truc là.
Ouais, bah, j'ai même déjà vu un concept comme ça d'une Alors, j'ai oublié le nom, mais une tiny, en effet, qui a été faite à l'époque, je sais plus, c'était en 2021 ou 2022, qui avait un design de ruche et qui avait même une ruche à l'intérieur. Donc, on pouvait voir les abeilles de l'intérieur et je trouvais ça assez, assez intéressant. Et en plus de ça, le vrombissement des abeilles a apparemment quelques vertus.
Ah ben voilà, tu vois, ça donne envie d'aller creuser. On revient en 2022, Vincent. Et pour les personnes qui nous ont écoutés, qui ont voilà vu une société plus mobile où on recrée du lien à la nature, on recrée du lien aux matériaux naturels, on recrée du lien aussi avec les familles, avec des savoir-faire enthousiasmants qui du coup donnent encore plus envie de retourner à l'école. Qu'est-ce que tu suggères, toi, aux personnes qui nous ont écoutés pour cheminer vers ces 2030 glorieuses? Quelle est la première action, l'action supplémentaire même que les personnes qui nous écoutent peuvent faire pour les faire advenir ces 2030 glorieuses?
Je pense que c'est déjà peut-être un petit peu moins prendre en compte comment dire, c'est un petit peu moins peut-être regarder la télé et prendre en compte ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Je pense que se libérer déjà de ces sources d'informations qui peuvent parfois être un petit peu anxiogènes peuvent fermer certaines personnes à justement à faire de chouettes projets et ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de se lancer, ne pas avoir peur d'essayer, ne pas avoir peur de rater, et surtout ne pas oublier que un simple sac à dos et des chaussures de randonnée peuvent vous mener à de chouettes aventures.
Merci Vincent.
Merci à toi.
Et voilà, cette interview avec Vincent Bourg est terminée. Je sais pas vous, mais moi ça m'a fait vraiment réfléchir cet échange avec Vincent sur la place du rêve dans nos métiers. Parce que en fait, ça fait quelques semaines, quelques mois maintenant que j'ai envie de réaliser cette interview. Parce que j'ai autour de moi des personnes, notamment qui travaillent dans le bâtiment et qui me disent tout à quel point elles seraient mais vraiment, vraiment, vraiment ravies de changer le métier qu'elles font actuellement, on va dire dans le BTP classique, pour justement rejoindre ce type d'initiative, faire quelque chose de plus sur mesure, de plus à taille humaine en fait, mais aussi où on peut plus laisser sa place à la créativité et travailler de belles matières premières et en l'occurrence naturelles. Vincent est longuement revenu sur la place que le bois avait dans les tiny houses, mais aussi un peu dans son cœur, je crois. Donc voilà, c'est podcast, finalement, il continue dans la lignée de ce que je voulais faire depuis très longtemps et que j'arrive de plus en plus à faire, j'ai l'impression, avec les podcasts 2030 Glorieux, c'est-à-dire montrer ces métiers enthousiasmants de demain, montrer à quel point on va pouvoir, j'allais dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, peut-être pas autant, hein. L'idée c'est d'avoir des métiers aussi qui prendront sans doute un peu moins de place dans nos vies, mais quand même d'avoir au cœur de notre agenda, au cœur de notre quotidien, des heures et des heures qui sont dédiées à des causes justes, à des causes qui nous sont chères, à des sujets qui nous permettent aussi de grandir en tant que personne, et ça, dans notre travail. C'est possible, c'est en 2030 glorieuse, et ça tombe bien, il y a déjà tout un tas de personnes qui le font déjà, et je suis vraiment ravi de leur donner la parole. Du coup, je continue hein, et je vous donne rendez-vous, moi, dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Allez, salut. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommenceparmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut!